السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، تقاربوا بارك الله فيكم، واعلموا رحمكم الله، تستحب الخطبة بين يدي العقد، وهي التي تسمى خطبة الحاجة. خطبة الحاجة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وقد بينا سابقا فضائل هذه الخطبة، بعض فضائل هذه الخطبة العظيمة، وبعض ما عنيها. وقد كانت هذه الخطبة سبب إسلام رجل وقومه. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons notre étude sur les règles du mariage. Et nous sommes toujours dans le déroulement entre la demande et le contrat de mariage. Nous avons vu qu'il y a des conditions, comme l'autorisation du tuteur et la présence de deux témoins. Nous avons vu qu'il y a des piliers, et deux piliers, al-ijab ou al-qaboul. La réponse, yani la réponse et l'acceptation. La réponse du tuteur, le tuteur dit au mari, Zawajtuka binti, je te marie ma fille, en citant son nom, selon la religion d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le mari accepte en disant qabil. Également, et là on prend et on sait que pour que le mariage soit accompli, il faut que quatre personnes au minimum soient présentes. Le mari, le tuteur de la femme et les deux témoins. Nous avons vu également qu'il était obligatoire de demander la permission à la fille. Et nous verrons plus tard, Inch'Allah, qu'il est obligatoire, as-sadaq, de demander que la fille demande une dot. Nous voyons à présent qu'il est fortement recommandé de réciter lors du contrat de mariage, khutbatul hajj, le serment du besoin. Ce serment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à chaque Jumu'ah qu'il faisait. Et nous avons introduit ce Jumu'ah et les Jumu'ah que l'on fait, on introduit par cette khutbah. Comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné khutbatul hajja, le serment du besoin dans le mariage, et dans d'autres occasions. Donc lorsque le contrat de mariage est acté, il est recommandé, ce n'est pas obligatoire, mais il est recommandé de réciter cette khutba, de réciter ce serment magnifique. Et peu importe la personne qui la récite, ce n'est pas obligatoirement un imam qui doit se déplacer pour venir la réciter. Si le tuteur la récite, ou le mari la récite, ou un des deux témoins la récite, cela est suffisant. Et si elle n'est pas récitée, nous avons vu que cela n'est pas obligatoire. Mais nous avons vu déjà dans une khutbah passée les mérites de cette khutbah, de ce serment, khutbatul hajja, le serment du besoin. Et nous avons même évoqué, il y a quelque temps, quelques sens importants de cette khutba. Et parmi les mérites que nous avions évoqués, c'est que cette khutba a été la cause de la conversion à l'islam d'un homme et de tout son peuple. Cette khutba, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, jusqu'à la fin, elle a été la cause de la conversion à l'islam de tout un peuple, comme nous allons l'évoquer, bi fadlillah jalla wa ala. Kama ja'a fi sahih Muslim, min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Dhimad qadima Makkah, wa kana min azdi shanu'a, wa kana yarqi min hadhihi ar-rih, ya'ni min al-jinn. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فقال لو أني رأيت هذا الرجل يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفي على يديه. قال فلقي فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح فإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال ضمنت أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضمان لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلامك هؤلاء، ولقد بلغنا عوس البحر. فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ فقال ضماد وعلى قومي. أبصوا مكسيمون بارك الله فيكم. شيخ سبيتر الله عز وجل، كم سلا أيتي غبوختي ضمن صحيح دني من مسلم دقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلجيك ضماد ضماد الأزدي. Cet homme qui faisait partie de la tribu de Ezdouchanoa, cette tribu qui était une très grande tribu du Yémen, cet homme, ce chef de tribu que l'on appelle Dhimad, est arrivé à la Mecque. Il est arrivé à la Mecque et cet homme pratiquait la ruqya. Yani, il chassait ces êtres du vent. Yani, ici c'est les djinns, puisque tout comme le vent, l'homme ne peut pas voir les djinns. Tout comme il ne voit pas le vent, il ne voit pas les djinns. C'est pour cela que dans le hadith, les djinns ont été cités rires. Et Dhimad, lorsqu'il est arrivé à Mecca, il a entendu certains sons de Mecca, certains ignorants parmi les associateurs qu'il disait et qu'il répétait « Inna Muhammad al-Majnoun »« Certes, Muhammad est un fou. Certes, Muhammad est possédé. » Et là, Dhimad, lui, dans sa contrée, dans sa tribu, dans son pays, c'était quelqu'un qui faisait ruqya. Il n'était pas musulman. Mais il se dit, si je croise cet homme, puisqu'il entend partout, certes Mohammed est possédé, certes Mohammed est possédé, il s'est dit en lui-même, si je croise cet homme, je vais lui demander, je vais lui proposer mes services. Il se peut qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, le guérisse grâce à moi. Alors il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dhimad a été voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit, ya Muhammad. Il lui a dit, oh Muhammad, je pratique la ruqya. Je pratique l'exorcisme pour chasser ces êtres du vent. Et Allah guérit par mon biais qui il veut. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu veux que je te fasse ruqya? Il a demandé ça à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mets-toi à sa place. Quelqu'un vient te voir dans la rue et te dit, j'ai entendu que tu étais possédé. Est-ce que tu as besoin que je te fasse en prière? Quelle réaction vas-tu avoir? Mais regardez la réaction de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, amma ba'd. Il dit, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Certes, la louange est à Allah. Naam, toutes les éloges sont à Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les éloges appartiennent à Allah azza wa jal seul, car il est le seul qui possède les plus beaux noms. Il est le seul qui possède les attributs les plus parfaits. C'est lui le seul qui octroie les bienfaits. Tous les bienfaits viennent d'Allah. C'est pour cela que nous disons Alhamdulillah, la louange est à Allah. Nous le louons et nous implorons son secours. Nous implorons son secours afin qu'il nous aide dans toutes les situations. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait dire « Man yahdihillah, fala mudillala, wa man yudlil, fala hadiyala. » Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. « Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. » Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité à part Allah Azza wa Jal, et que Muhammad est son messager et son serviteur, et son serviteur est son messager. Ali lui a récité Khutbatul Hajja. Qu'est-ce qu'il a dit demain? Il lui a dit A'id alayya kalimatika ha'ula. Répète-moi ces paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété. Et lui a dit, répète-moi encore ces paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété trois fois ces paroles. Et l'Adhimad a dit, Sami'tu qawla al-kahana. J'ai eu l'occasion d'entendre les paroles des devins. Wa qawla sahara, les paroles des sorciers. Wa qawla shu'ara, les paroles des poètes. Fama sami'tu mithla kalimatika ha'ula. Mais je n'ai jamais entendu des paroles. Je n'ai jamais entendu des paroles semblables aux tiennes. Elles atteignent la profondeur des mers. Donne-moi ta main. Il dit ça au prophète, alayhi salatu wa salam. Donne-moi ta main afin que je te prête serment, afin que je suive l'islam, afin que je me convertisse à l'islam. Et il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti à l'islam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire, est-ce que cela est aussi au nom de ton peuple? Et il réplique à Na'am, c'est aussi en leur nom. Et le peuple tout entier, cette grande tribu de l'Az, cette grande tribu de Az de Shanoa, de la tribu de Dhimad, toute sa tribu s'est convertie à l'islam. Toute sa tribu s'est convertie à l'islam et ils sont restés, même après la mort de Dhimad, ils sont restés musulmans. C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ne négligeons pas la sunnah de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons revivre cette sunnah qui malheureusement est perdue de réciter khutbatul hajja, notamment durant le contrat de mariage. Et qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, de commencer son mariage par khutbatul hajja. Tu commences ton mariage par le fait de remercier Allah, par le fait de louer Allah Azza wa Jal, par le fait de prendre conscience qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala possède les plus beaux noms, les attributs les plus parfaits, par le fait de prendre conscience qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala peut t'aider si tu lui demandes l'aide. Et combien avons-nous besoin d'aide dans notre couple? Combien avons-nous besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal dans l'éducation de nos enfants? Qu'est-ce qu'il est beau que de commencer ton mariage par la demande de pardon, le fait de commencer ceci par le tawba, par le repentir. Qu'est-ce qu'il est beau durant ce mariage que de se rappeler que seul Allah Azza wa Jal guide, et que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qu'Allah Azza wa Jal égare, personne ne peut le guider. Qu'est-ce qu'il est beau durant ce contrat de mariage que de réciter ces trois versets, les trois versets dont nous avons introduit la khutba avec, car ces trois versets nous rappellent qu'on doit craindre Allah Azza wa Jal. Et combien le couple doit craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala, car un couple qui n'est pas fondé sur la crainte d'Allah Azza wa Jal est un couple qui est voué à la perte et à la destruction. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous rappelle que toute la progéniture descend de deux personnes, Adam et Hawa. Qu'est-ce qu'il est beau, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, de rappeler la ilaha illallah durant ce contrat de mariage. Que seul Allah tabaraka wa ta'ala mérite notre adoration, que seul Allah Azza wa Jal mérite notre obéissance, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de lui. Le couple doit être basé sur le tawhid, le couple doit être basé sur la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il est beau durant ce contrat de mariage que de se rappeler de Muhammadun Rasulullah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui mérite d'être suivi. C'est lui le dernier des messagers qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé. Et cela nous rappelle que ce contrat de mariage fait partie des rahmat, fait partie des miséricordes de rahmatullah, de la miséricorde d'Allah azza wa jal sur nous. Cela fait partie des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé à cette communauté. Cela fait partie de la religion, de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec ce ahd, avec ce contrat de mariage. Et ce contrat de mariage, quel bienfait! Il te rend ton épouse licite, alors que juste avant ce contrat, elle t'était interdite. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فقد جارت عادة كثير من المسلمين بقراءة الفاتحة عند الخطبة، بعضهم يقول تبركا أو جلبا للبركة، وبعضهم يقول استبشارا، وبعضهم يعتقد أن قراءة الفاتحة تسبب بقاء الخطوبة. وهذا عباد الله، هذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة الكرام، ولا عن التابعين، ولا عن الأئمة المتبوعين، بل ولم نجده في كتب الفقهاء حتى المتأخرين، وإنما أحدثه الناس. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس بالخير، ولو كان في هذا خير لقرأ الفاتحة، لقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام عند زواجه أو عند تزويجه لبناته، ولا فعل، ولا فعله الصحابة، ولا فعل ذلك الصحابة. فلسنا أعلم ببركات الفاتحة أو خيراتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الصحابة، ولا من السلف الصالحين. شيخ سبحانه الله تبارك وتعالى، beaucoup de musulmans ont pris l'habitude de réciter Sourate Al-Fatiha lors de la demande de mariage ou lors du contrat de mariage. Ils ont même appelé, c'est même connu maintenant, la Fatiha. Je veux faire la Fatiha. Cela parce que les gens pensent que l'on doit réciter la Fatiha durant ce contrat de mariage. Certains disent que réciter la Fatiha durant le contrat ou la demande, cela apporte la baraka. D'autres disent réciter la Fatiha, cela est pour annoncer la bonne nouvelle. D'autres disent et croient fermement que la lecture de la Fatiha entraînera le maintien de la demande en mariage et du couple, etc. D'autres pensent que cela est légiféré, car dans notre village au bled, les imams font cela. Ou parce que nos parents ou nos grands-parents nous ont dit de faire cela, ou eux-mêmes ont fait cela. Donc ils pensent que cela fait partie du dîn. Mais cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'a pas été rapporté de nos nobles compagnons, ni de ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, ni des imams connus pour leur science que l'on doit suivre. Bien plus encore, nous ne trouvons pas cela dans les livres de fiqh, ni dans les livres des quatre imams, des quatre écoles. On ne trouve pas dans les livres de jurisprudence que l'on doit réciter Sourate Al-Fatiha à ce moment-là. Que ce soit la demande en mariage, que ce soit le contrat de mariage, même certains récitent Al-Fatiha au moment de l'enterrement. Toutes ces choses-là n'ont aucune source, n'ont aucune base dans notre din. Mais ce qui est connu, c'est qu'en réalité, c'est les gens qui ont inventé cela. Ce n'est qu'une pure invention. C'est une nouveauté religieuse, c'est une innovation. Et ce qui est connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait la plus grande volonté quant au fait de faire du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire plus de bien que nous on veut le faire. Et si, dans le fait de réciter la Fatiha, il y avait un bien, ben quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié lui-même, il aurait récité la Fatiha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié ses filles, lorsqu'il a marié ses propres filles, s'il y aurait un bien dedans, il aurait récité la Fatiha. Mais il ne l'a pas fait, ni pour ses mariages à lui, alayhi salatu wa salam, ni pour marier ses filles, ni pour marier ses compagnons. Et s'il y aurait un bien dans cela, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auraient fait cela. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous ne sommes certainement pas plus savants que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des bénédictions et au sujet des bienfaits que comporte la Fatiha, ni bien plus savants que les compagnons ou que les pieux prédécesseurs. وَقَدْ سُئِلَ عُلَمَاءُ لَجْنَةِ الدَّائِمَةِ هَلْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ خِطْبَةِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ بِدْعَةٌ فَأَجَابُوا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ خِطْبَةِ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ. نعم عباد الله السنة كما بيناها من الخطب السنة هي خطبة الحاجة عند عقد النكاح فأعرض الناس عن هذه السنة وتمسكوا بالبدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, certes le comité permanent des savants a été interrogé au sujet de la récitation de la Fatiha lors de la demande en mariage ou lors du contrat de mariage. Ils ont répondu que la récitation de la Fatiha lors de la demande en mariage ou lors du contrat de mariage était une innovation religieuse. Na'am. La sunna, comme on l'a évoqué, c'est de réciter khutbatul haja, le sermon du besoin, lors du contrat de mariage. Mais les gens se sont détournés de cette sunna et ils se sont accrochés à cette bid'a. Ils se sont accrochés à cette innovation. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même dans cette khutba, dans ce mariage, il disait, dans ce contrat de mariage, il disait lui-même « فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ » Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم et la meilleure des guidées est la guidée de Mohammed صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها et les pires des choses sont les nouveautés religieuses وكل محدثة بدعة et toutes les nouveautés sont des innovations وكل بدعة ضلالة et toutes les innovations sont des égarements وكل ضلالة في النار et tout égarement mène à l'enfer. Donc accrochons-nous à la sunna et détournons-nous de la بدعة et ne faisons pas l'inverse, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. أيضا مما يتعلق بالخطبة ما يسمى بدبلة الخطوبة أو دبلة النكاح فأجازه بعض علماء وكرهها بعضهم وحرمها بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وهو الأظهر والله أعلم أنه حرام لأن هذه فيها اعتقاد وفيه تفصيل. Également, et nous terminons sur cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, parmi les choses qui sont en lien avec la demande de mariage ou le contrat de mariage, c'est qu'à ce moment-là, ils s'échangent les bagues de fiançailles ou les alliances, ou toutes ces gagnées, la bague de fiançailles ou l'alliance. Ici, les savants ont beaucoup parlé sur le sujet et il y a un grand détail à faire. Nous allons simplement résumer cela, car le but de ces khutbah, c'est de résumer les règles afin que nous profitons de cela. Premièrement, si cette bague, si cette alliance est en or, et l'or est strictement interdit pour l'homme, si elle est en or, les savants sont unanimes sur le fait que l'homme ne doit pas la porter et qu'il est strictement interdit de porter la bague qui est en or. Ensuite, si cette bague, si cette alliance est en argent, et quand on dit l'or, que ce soit l'or jaune ou l'or blanc, que ce soit l'or qui est jaune ou l'or qui est blanc, l'or, d'une manière générale, est interdit pour l'homme. La deuxième chose, si cette bague est en argent pour l'homme ou en or pour la femme, vu que l'avis le plus prépondérant c'est que l'or est autorisé pour la femme, quel est son jugement? Quel est le jugement de la bague de fiançailles ou de l'alliance? Certains savants qui ont répondu à cette question l'ont autorisé et ils ont considéré que c'est une coutume qui est connue chez les musulmans. D'autres savants l'ont rendu détestable. Ils ont dit la moindre des choses, c'est que cela est détestable. Et d'autres savants l'ont interdit totalement. Et c'est ce qui semble la vie le plus correcte. Wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi? Car en réalité, cette coutume ne provient pas des musulmans. C'est une coutume qui provient d'autres que l'islam, d'autres religions que l'islam. Et en fait, derrière cette coutume, il y a une grande croyance chez certains. En la mettant sur l'annulaire, en la mettant sur ce doigt-là, ils le mettent sur ce doigt-là, en réalité, il y a une grande croyance. Ils citent la Trinité, wal'iyadu billah, sur les trois premiers doigts, et ensuite ils mettent cette alliance sur le quatrième doigt. Et ils croient qu'en faisant cela, le mariage sera préservé, etc. Donc, pour cela, on ne la met pas. Également, certains ont ramené que c'était une coutume de la Grèce antique. D'autres ont ramené que c'était même une coutume de l'Égypte pharaonique, yani des païens. Et ils pensaient que cette bague, puisqu'ils pensaient qu'en réalité la veine qui va droit au cœur passe par l'annulaire, passe par le bon sort ici. Donc, en fait, ils pensaient qu'en appuyant sur cela, l'amour allait rentrer dans le cœur des époux et des épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la yaribu ila ma la yaribu. Délaisse ce dont tu as un doute pour ce qu'il n'y a pas de doute. Alors, bien sûr, celui qui porte cette alliance, avec ces croyances-là, s'il pense que c'est cette bague qui ramène l'amour dans les cœurs, ça c'est du chef Akbar, du grand polythéisme. S'il la porte en pensant que c'est une cause, ça c'est du chef Asra, c'est du petit chef, et le petit chef est pire que le péché. Et celui qui la porte simplement pour la coutume, ici on dit d'arma yaribu ila ma la yaribu. Délaisse les choses douteuses, ce dont il y a un doute, pour ce dont il n'y a pas de doute. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar wa qumu ila salat.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استقيموا Sajjalera Barakutum, prosternez-vous sur les talons, sur le dos de ceux qui sont en face de vous. Alignez bien les rangs, remplissez bien le fond de la mosquée, Sawus Sofou. Istaqimu, i'tadilu.
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله